1994 devait marquer le renouveau de la Formule 1, avec l'introduction des ravitaillements et la fin des aides au pilotage électronique. Mais l'année fut la plus noire de l'histoire du sport. Accidents, controverses, soupçons, la saison qui vit la mort d'Ayrton Senna est aussi celle du premier titre de champion du monde pour Michael Schumacher. Mais entre disqualification, suspension et accrochage, la couronne de l'Allemand demeure, aujourd'hui encore, la plus contestée.
Épisode 4, un titre et des controverses.
Pierre Van Vliet en a parlé dans le dernier épisode de Benetton, qui devient progressivement une force qui compte en Formule 1. Et 1994, c'est l'année où elle doit vraiment changer de statut.
C'est vrai que ça commence à tourner à plein régime grâce à justement cette belle osmose entre Briatore, Tom Walkinshaw, dont on a parlé dans l'épisode précédent, et Michael qui lui-même, évidemment, prend de l'expérience et de l'assurance, du coup. Et Ross Brawn, le directeur technique aussi, recrute, va rechercher des ingénieurs avec qui il a travaillé, Rory Byrne notamment, Pat Simmons, qui était chez Tolman auparavant, puis qui était parti quand Barnard avait fait le ménage chez Benetton. Ils étaient partis dans un projet chez Reinhardt, si je me souviens bien. Et Ross Brawn est parvenu à les ramener. Donc la Dream Team, c'est vraiment là qu'elle s'est constituée. Je parle de la Dream Team technique, hein, avec Walkinshaw, Ross Brawn, Rory Byrne et Pat Simmons. Et du coup, voilà, la machine a commencé effectivement à tourner à plein régime avec Schumacher, voilà, qui avait un peu le vent dans le dos, dans le sens où, bon, 94, évidemment, c'est une année difficile. Williams est en difficulté. Alors, il y a le drame d'Imola, mais de toute façon, la voiture n'est pas aussi performante que les deux précédents. Alors que chez Benetton, on a le moteur Ford HB avec un statut officiel chez Ford que McLaren n'a pas, en 93, n'avait pas. Et du coup, ben, voilà, Michael a une arme gagnante entre les mains.
Justement, très tôt dans la saison, certains adversaires, dont Ayrton Senna, désormais leader chez Williams-Renault, font une preuve d'exaspération devant cette émergence. C'était de la paranoïa. Est-ce que cette Benetton était vraiment légale?
Alors, bien sûr que non. Parce que là, on a quand même une association malfaiteur quand on parle de Walkinshaw, Ross Brawn, Briatore, voilà. Mais bon, ça, c'est la course, c'est la F1, et ces gars-là sont payés pour aller dans les derniers recoins du règlement, trouver la faille et se donner ce qu'on appelle le unfair advantage en anglais, ce que Williams avait fait avec la suspension active, par exemple, ou voilà. Donc, chez Benetton, il y avait effectivement, à l'époque, il y avait eu interdiction par la fédération des aides électroniques au pilotage, notamment l'antipatinage, hein, le système d'antipatinage au départ. Et officiellement, ben, tout ça avait été rayé des monoplaces. Sauf que, effectivement, début 94, on se rend compte que la Benetton, elle démarre très bien, vraiment très bien. Et moi, j'ai un souvenir que j'avais évoqué dans le podcast Ayrton Senna. C'est le Grand Prix du Pacifique à Aida en 94. Ayrton abandonne au départ parce qu'il y a un accrochage.
Eh bien, c'est là que Ayrton Senna est allé trouver refuge après l'incident du départ. Vous savez qu'il y a eu une petite touchette, semble-t-il, entre la McLaren Peugeot de Mika Hakkinen, que vous avez à l'écran pour l'instant, et la Williams Renault dans ce premier virage. Mais il y a surtout eu une grosse hésitation au moment du départ, au moment du feu vert. Et Senna semble mécontent que la procédure de départ n'ait pas été remise à zéro, ce qui lui aurait permis évidemment de repartir sur la voiture de réserve.
Et il reste en bord de piste et on est à l'épingle, moi je viens à sa rencontre, on est à l'épingle, il me dit viens, écoute, à la sortie de l'épingle, écoute la Benetton, écoute Michael. Et effectivement, on entendait le rupteur, hein, le fait que ça se mettait en marche pour empêcher les roues de patiner. Il était furieux, il va chez Williams pour porter réclamation, Williams veut pas porter réclamation, il va à la direction de course, à les filles, enfin bref, Ayrton remue ciel et terre parce qu'il était persuadé effectivement que la Benetton était pas conforme et que donc on ne se battait pas à armes égales.
Au bout de l'horreur, et oui, c'est Senna qui est coincé dans cette Williams Renault qui a tapé violemment dans Tamburello. Senna qu'on a vu vraiment KO très longtemps. Voici la vue depuis la voiture de Schumacher et puis direct sa voiture. Regardez la Williams Renault réduite à l'état d'épave.
Évidemment, le moment clé de la saison, c'est le Grand Prix de Saint-Marin à Imola. Roland Ratzenberger puis Ayrton Senna trouvent la mort le samedi et le dimanche. Au 7e tour de la course, Michael Schumacher se trouvait juste derrière la Williams de Senna quand l'accident a eu lieu. Dans quelle mesure le pilote allemand a-t-il été marqué par cet épisode ?
Il a été très marqué, comme nous tous, hein, comme tout le monde, bien sûr. Mais il était dans un combat qui commence à se préciser, un duel avec Ayrton Senna. Senna était orphelin de Prost, hein, on se souvient de son fameux message ce même week-end à Imola. Et il avait conscience que le suivant sur la liste, c'était Michael Schumacher. Et pour Schumacher, Senna, c'était la référence absolue, c'était le repère, le modèle. Michael a assisté au championnat du monde de karting à Nivelles, quand Senna se met en valeur, il avait 11 ans. Quoi. Donc Senna, pour Schumacher, c'était l'icône. Et le fait qu'il commence à se battre avec lui et que voilà, le duel s'installe, Senna, du haut de son piédestal, le prend un peu de haut au début. Et puis, hein, il avait son côté un peu cassant, un peu tranchant. Hein. Alain Prost, c'était de Frenchman. Et Schumacher, c'est devenu tout de suite de German. On ne citait pas son nom. Quoi. Ayrton ne parlait pas d'eux en les nommant. Mais on avait tous compris. Donc, pour Michael, la disparition de Senna, il ne s'est pas rendu compte tout de suite parce que sur le podium, on ne leur a pas dit. Donc, bon, certes, il y avait eu la mort de Ratzenberger à la veille, donc il n'y a pas eu de scène d'allégresse, disons, sur le podium. Mais ce n'est qu'après, en conférence de presse et dans le paddock, qu'il a réalisé que, bon, Senna n'était pas encore officiellement mort. Donc, enfin, le choc était voilà, le tremblement de terre s'était déjà produit. Et donc, pour Michael, ça a été évidemment un choc dans la mesure où c'était c'était celui qu'il voulait battre, qui n'était plus là. Et ce qui a peut-être une forme de culpabilité aussi par la suite, on s'est rendu compte que évoquer Senna avec Schumacher, ça a toujours été difficile. Il y avait une émotion, une espèce de surcroît d'émotion auquel on n'était pas habitué avec Michael. Et moi, je me demande, je me pose la question, hein, je ne prétends pas que c'est ça, mais s'il n'y a pas une forme de culpabilité dans l'accident de Senna et dans le fait que la Benetton n'était quand même pas tout à fait conforme et que donc ça poussait Senna et Williams à aller dans leur dernier retranchement. Et je me demande si dans le chef de Michael, il n'y a pas eu voilà, cette peut-être culpabilité cachée ou inconsciente même, mais qui chaque fois qu'on parlait de Senna, je me souviens à Monza en 2000, quand il bat le record de victoire de Senna, ils se font en larmes, en conférence de presse, en public. C'était quand même pas dans les habitudes du Kaiser.
À ce moment-là, Schumacher cumule les victoires, Saint-Marin, Monaco, Canada, France, et tout s'enraye à Silverstone. Qu'est-ce qui se passe dans le tour de formation du Grand Prix de Grande-Bretagne ?
Alors, un petit malentendu dans le tour de chauffe, hein, en allant en grille, où effectivement, Michael dépasse Damon Hill qui est devant lui sur la grille. Et normalement, effectivement, dans le tour de formation, on reste en formation. On n'a pas le droit hein, de dépasser un concurrent qui vous précède dans la hiérarchie. Bon, alors ça se passe de façon peut-être un peu involontaire ou pas, on n'en sait rien d'ailleurs. Et donc, Michael est dans le viseur des commissaires. Normalement, ce genre de non-événement, hein, parce qu'il n'y a pas d'avantage pris, etc. C'est avant le départ de la course. Normalement, c'est un blâme ou c'est éventuellement une amende. Voilà. Mais là, ils étaient quand même dans le viseur de la FIA parce que les doutes étaient vraiment récurrents sur l'usage de l'antipatinage ou des aides électroniques au pilotage sur la Benetton. Benetton était parvenu à passer entre les mailles du filet de tous les contrôles techniques, etc. Et il fallait aussi trouver d'autres moyens pour leur faire payer leur tricherie. Et donc celui-là en fut un, effectivement, le premier d'une longue série.
Donc il prend 10 secondes de pénalité, il obtempère pas, drapeau noir, il continue, il finit deuxième du Grand Prix.
Oui, parce qu'on lui met le drapeau noir, je crois, au dernier tour, et il rentre au stand, comme si il obtempérait au drapeau noir, mais de ce fait, il passe la ligne, parce que la ligne était avant l'entrée des stands, enfin bref.
Ah, la pénalité, voilà, le drapeau noir a été présenté, avec le numéro 5.
Flag, avec le numéro 5, mais ça c'est grave, le drapeau noir, attention.
Ça veut dire abandon de la course, normalement, pour Michael Schumacher. Donc apparemment, ils ont dû refuser la pénalité.
Ils ont vraiment dans le nez, quoi, chez Benetton. Au Grand Prix de Belgique, il est disqualifié pour une histoire de fond plat qui sue sur les bordures et qui était trop mince, etc. Enfin, tous les prétextes étaient bons pour les pénaliser. Et voilà, c'était dû au fait que la FIA avait même maintenant, pour ainsi dire, la preuve de la tricherie, parce que Max Mosley avait mandaté une société spécialisée en audit électronique, qui s'appelle LDRA, Liverpool Data Research Associates. C'était vraiment des universitaires très pointus à Liverpool, qui avaient passé le programme informatique de la Benetton à la moulinette. Et ils s'étaient rendu compte qu'en fait, effectivement, les 10 programmes qui était interdit hein, d'aide électronique au pilotage avait été supprimé, mais qu'on avait laissé un 11e, un 12e qui n'existait pas, et que tout d'un coup, il y avait un 13e, et que c'était précisément l'antipatinage. Donc là, ils ont eu la conviction que Benetton avait triché, mais ils n'ont pas pris la main dans le sac, donc ils n'ont pas pu les punir pour ce fait-là, et donc ils ont un peu abusé du règlement par ailleurs.
Voilà, donc cet été, cet automne 94, où on a
Schumacher disqualifié à Spa, on l'a suspendu deux courses après à Monza et à Estoril. Tout ça, c'était de la vendetta, en fait.
Un peu, il y a un peu de ça. Il a été effectivement suspendu. Il était très vexé. Alors, il y avait aussi un comportement en piste qui était parfois un peu de voyou. On va s'en rendre compte, d'ailleurs, à la fin de l'année. On y arrive, hein, cette fameuse finale d'Adélaïde.
Justement, à Adélaïde, en Australie, avant la finale du championnat, la tension était extrême. Michael Schumacher et Damon Hill ne sont séparés que par un seul point. L'Allemand prend le dessus sur la Williams au départ et au 35e tour, le réalisateur bascule soudainement sur la caméra embarquée de Schumacher. Qu'est-ce qui se passe à cet instant, Pierre Van Vliet ?
Alors effectivement, le duel était très intense entre eux. Il y avait Nigel Mansell sur l'autre Williams qui avait repris du service, mais qui s'était pas mêlé vraiment à la lutte pour la première place en laissant les deux protagonistes du championnat se mesurer. Nigel avait fait la pole, mais il va gagner le Grand Prix d'ailleurs, mais forcément par défaut, puisque les deux autres vont abandonner. Alors ce qui se passe, c'est que Michael est en tête, Damon Hill deuxième. Ça ne suffit pas à Michael pour être champion du monde, dans les points, dans l'arithmétique, me semble-t-il. En tout cas, il part à la faute, parce que ça c'est la vérité, à mi-course, il s'ouvre, les pneus avant sont usés, enfin bref, et il va taper le mur à l'extérieur, et donc il plie une suspension, voilà, il reprend la piste, mais lui sait que sa course est finie. Damon Hill peut-être ne le mesure pas tout à fait, et donc Damon Hill, voilà, passe, et dans le virage suivant, ben Schumacher vient s'encastrer ou plutôt fermer la porte à la Williams de Damon Hill et il part sur deux roues. Mais en attendant, la Williams est également meurtrie, endommagée et il rentre au stand au petit trot Damon pour réaliser que tout s'écroule et que le titre lui échappe puisque évidemment, si personne ne marque de points, c'est entre guillemets le méchant qui gagne et ça fait quand même beaucoup de remous. Alors moi j'ai un souvenir très précis de Michael déjà quand il réalise qu'il est champion du monde. Parce que quand l'abandon de Damon Hill est validé, quoi, parce qu'ils n'étaient pas, disons, physiquement tout à fait dans le même périmètre. Il y a un gros plan sur lui à la télé où il a un sourire comme ça de soulagement, mais qui est un peu forcé, je trouve. J'ai trouvé à l'époque. Et je me souviens avoir été présent dans le garage Benetton après la course où, hein, ils ont célébré le titre mondial. Hein, la lumière du jour était déjà, on était déjà au crépuscule. Et il y avait Flavio, il y avait les bouteilles, voilà, et on fêtait le titre de Michael. Mais en ayant quand même conscience que c'était un titre un peu volé ou un peu, voilà, un peu arraché dans des circonstances difficiles. Mais la saison avait été tellement chaotique que voilà, il y avait une forme de soulagement aussi.
Michael Schumacher, La Saga, un podcast de Pierre Van Vliet et Andy David, prise de son et montage Clément Ritter, voix off Marie Lisac.